Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Clap Cinéma, je vous annonce la présentation du film Le Diable en Garrigue de Mariette Guters. Présentation donc par Mariette Guters qui est ici présente. Bonjour Mariette.
Bonjour, merci de me recevoir.
Donc le dimanche 1er février à 11h au cinéma Le Sémaphore, vous présentez votre court-métrage documentaire, donc Le Diable en Garrigue, précédé d'un autre documentaire de Thierry Bourdi, Résistance de la mémoire. C'est un documentaire qui vous a demandé beaucoup de travail et qui parle donc de la vie de Lion von Schwanger, excusez l'accent, le diable en France, et qui a été interné au camp Saint-Nicolas. Et beaucoup de Nîmois ne savent même pas où était ce camp. Alors comment vous êtes venue cette idée d'abord d'aller découvrir le camp Saint-Nicolas, ensuite d'en faire un documentaire, puisque votre métier était monteuse de cinéma. Puis à force de monter, vous avez voulu être cinéaste, et surtout sur les documentaires. Alors vous en aviez déjà, votre premier c'était sur votre père, Robert Guters, je ne sais pas si tu peux comprendre. Le second, l'amie correspondante, hein, c'est ça. Et le troisième...
Correspondance,
au pluriel. Et le troisième, le diable en garrigue. Alors comment... Il n'y a pas longtemps que vous avez découvert ce camp.
Non, effectivement, et j'ai découvert ce camp par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Il y a eu d'abord cette émission sur France Culture où il y avait une balade dans le camp. Et parmi les intervenants dans cette émission, un historien qui est actuellement devenu plasticien, Salvatore Puglia. Et donc, je suis tombée...
Ça vous a interpellé.
Ça m'a interpellée. Et pratiquement en même temps, un ami écrivain, Jean-Jacques Salgon, m'a aussi parlé de ce camp qu'il avait pu visiter.
Parce que c'est encore en terrain militaire. Hein.
Oui. Et en même temps, parallèlement, en même temps, quasiment en même temps, j'ai découvert le récit de Leon Feuchtwanger, donc cet écrivain allemand, qui raconte tout son passage en France, depuis le camp des Milles jusqu'au camp Saint-Nicolas, et puis la suite, voilà, que je raconte dans le film.
Donc vous avez envie de faire un documentaire là-dessus.
Je me suis dit que, et c'est surtout après avoir lu ce livre, qui est un récit très vivant, plein d'anecdotes, et en même temps qui est nourri de beaucoup de réflexions sur la France de Vichy qui se mettait en place. Hein, et,
oui, je lis la fin de la quatrième de couverture. Ce récit est une mise en garde bouleversante contre ce diable de la négligence, de l'inadvertance, du manque de générosité, du conformisme, de l'esprit de routine.
Oui. Alors lui, parce que lui, Bon, évidemment, dans son livre, à beaucoup de moments, hein, il dénonce la collusion du régime de Vichy, qui était juste en train de démarrer. Mais je pourrais expliquer peut-être un peu plus tard ce qui le menaçait.
Il a écrit en 1942, hein, donc vraiment sur le vif.
Il l'a écrit après, oui. Et donc, en même temps, pour lui, il dit que c'était... ce diable en France, c'était c'était ça, c'était la négligence, c'était l'indifférence de l'administration. Mais donc il dit que lui-même, il dit, en fait, je peux le citer, hein, jamais je n'ai été frappé, bousculé, ni même injurié. Le diable de France était un diable aimable, plein de manières. Ce que sa nature avait de diabolique ne se manifestait seulement dans l'indifférence courtoise dont il faisait preuve face aux souffrances des autres, dans son je m'en foutisme et sa lenteur administrative.
Bon, ça oui, c'était un camp d'internement relativement tranquille.
Oui, parce que relativement tranquille. C'était pas un camp de concentration, c'était pas un camp de travail. C'était un camp de rétention des étrangers.
Oui, vous m'avez montré des photos avec les gardiens qui surveillaient dans, à côté du château, sur des tentes, alors que le camp des Mille, parce que quand on visite le camp des Mille, on est vraiment épouvanté, quoi.
Oui, mais le camp des Mille était également extrêmement surveillé aussi. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que Feuchtwanger, il avait d'abord été interné. Il y a eu un décret par le gouvernement français d'Edouard Daladier qui a autorisé l'internement administratif des étrangers qu'on a jugé par la suite indésirables. Alors, pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale.
Et donc, mais ça pouvait être des écrivains, au camp des Mille, on voit des peintres.
Parmi
des...
ces indésirables, au départ, il y avait les réfugiés espagnols, fuyant le franquisme. Et par la suite, tous les Allemands qui ont fui le nazisme, qui sont arrivés en 1933, donc parmi eux, Feuchtwanger, des artistes, des intellectuels antifascistes, et des juifs, beaucoup étrangers. Et donc, ils vont passer par le camp des Mille. Et à la suite d'événements que je raconte dans le film, ils se retrouvent à un moment donné, après une tentative d'évasion ratée, je vais dire, ils se retrouvent dans un camp provisoire, en pleine Garrigue Nîmoise. Et ça se trouve effectivement aujourd'hui dans le camp militaire des Garrigues. Il reste juste un vestige d'un grand bâtiment qui était le bâtiment de l'administration, enfin des surveillants, et... qui était peut-être autrefois un ancien relais de poste. C'est une grande façade.
Alors, vous l'avez mis en photo dans votre film, parce que votre film, on va en reparler plus concrètement, c'était difficile à produire. Vous avez eu du mal à le produire.
Alors, voilà. Parce que moi, j'ai pas fait un film, un portrait d'un écrivain, mais je me sers de ce récit comme d'un témoin. Et ce qui m'a été reproché ou demandé, et que je ne c'était pas mon point de vue, faire un film, ce qu'on appelle un peu formaté, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, il y a
des historiens,
des archives, et l'historien devant sa bibliothèque, voilà, qui explique.
Ça, vous ne vouliez pas.
Et moi, je suis partie, parce que le récit de Feuchtwanger, d'ailleurs, j'engage effectivement à le lire, est tellement prenant que ça suffit quasiment à soi tout seul. C'est très imagé, il y a beaucoup d'anecdotes.
Ça se lit facilement,
bien sûr, mais il y a de grands moments de réflexion également.
Et donc, dans votre film, vous faites lire, en fait, des passages du livre.
Oui, donc j'ai fait... mon fil conducteur, c'est des passages du livre qui sont dites par un comédien excellent, là, Jean-Claude Dumas, un comédien d'ici. En même temps, de temps en temps, on a quand même besoin de quelques petites explications, mais ce n'est pas du tout une voix off, ce sont quelques petits cartons indicatifs. Oui. Et également, pour illustrer les... parce que c'est un film, donc je suis pas. Et je suis retournée dans les lieux, donc c'est une caméra qui bouge un peu, beaucoup dans les lieux. Aussi, évidemment, au camp des Mille. Et puis, il y a les archives, et il y a l'iconographie aussi, il y a les tableaux des artistes. En même temps, pour illustrer des scènes très vivantes, j'ai fait appel à un dessinateur qui s'appelle Hassein, qui a, donc dans ses dessins, reconstitué des petites scènes de ce qui se passe dans ce que raconte Feuchtwanger.
Donc vous saviez que, parce qu'un documentaire type, c'est 52 minutes, là, comme vous n'aviez pas eu...
Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des producteurs.
Et donc là, c'est L'œil écoute, c'est de Thierry Bourdi.
Donc finalement, j'ai rencontré, je le connaissais, mais ça a intéressé Thierry Bourdi de L'œil écoute, qui est parti dans le projet avec moi, et qui a été séduit par l'histoire. Et puis, il était à la caméra, au son, au montage. Donc, on a fait un travail.
Donc, c'est un travail très personnel, mais qui doit être partagé. En fait, vous voulez faire connaître vraiment ce livre, ce lieu, et puis surtout l'indifférence. Je crois que c'est vraiment le thème de votre film.
Disons que mon film, c'est surtout parce que j'ai un peu élargi. Après, quand si on sort du camp Saint-Nicolas, on voit ce qui a pu se passer par la suite en 1942 avec des déportations. Mais je voulais quand même parler de faire un film sur un travail de mémoire et surtout un lieu que personne ne connaissait parce qu'il y a le mémorial des Milles, celui de Rivesaltes, voilà. Et ce petit camp, qui a été quand même provisoire tout l'été 40, mais était ignoré. Oui. Et je voulais que ce soit un lieu de mémoire.
D'ailleurs, vous avez été très aidé aussi par le collectif Histoire et Mémoire.
Voilà, le collectif Histoire et Mémoire m'a beaucoup soutenu. Hein. C'est eux qui ont récemment reconstitué la statue de Bernard Lazare. Et ils m'ont beaucoup soutenu. Et également, j'ai eu un soutien de la fondation du camp des Milles, qui a d'ailleurs décerné le label citoyen de l'UNESCO de la DILCRA.
En 2025.
En 2025. Qui est un engagement avec ce film à être actif dans la lutte contre toutes les discriminations, racisme, antisémitisme.
Ce qui est très étonnant, je ne connaissais pas Léon Feinschwanger, pourtant j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet étant historienne moi-même. Et j'aurais dû faire le lien que c'est lui qui, ça semble complètement paradoxal, qui a écrit Le Juif Sus, qui a été le manifeste antisémite.
Alors, ce qui s'est passé, je peux un peu vous parler de Feuchtwanger. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas du tout connu par les Français. Il est très connu en Allemagne. Respectivement, finalement. Et lui, il a, si on peut le définir, c'était un pacifiste, humaniste, antifasciste. Hein. Et donc, il a travaillé aussi avec Brecht. Hein. Il a publié un journal. Et donc, lui, il était issu d'une famille de juives. Et le Juif Sus, dont vous me parlez, il a été publié en 1925. Et en fait, c'est un portrait inspiré d'un personnage historique, parce que c'était un roman qualifié historique, qui a eu un grand succès, où il explore l'antisémitisme, la corruption du pouvoir et l'injustice sociale. Voilà. Mais ce roman, les nazis vont le détourner en un film de propagande antisémite, tout le monde connaît. On se souvient de l'affiche.
Bien sûr.
Voilà, c'est le film de Weiterland, avec Goebbels, qui était derrière. Et donc, il a également, en 1930, il a écrit un roman, Erfolg, succès, où il anticipe l'arrivée du nazisme et en décrit les dangers. Alors, vous comprendrez bien qu'il devient ennemi public numéro un.
Et en
1933, il était en conférence aux États-Unis, parce qu'il était très connu. Hein.
Ah, oui.
Et donc, pendant ce temps-là, les SA ont mis sa maison à sac, on lui a retiré la nationalité, les livres brûlés, taux d'affaires, etc. Mmh. Et c'est là qu'il a décidé de ne pas rentrer. Et il est arrivé en France, à Sanary-sur-Mer, où il a retrouvé d'autres artistes. Et là, après, le film raconte la suite.
Voilà. Oui, oui. Donc, il faut voir ce film. Et je vous propose qu'on l'illustre parce que vous avez dit que ce n'est pas un camp de concentration. Et tout de même, le chant qui témoigne justement de l'enfer de la déportation, c'est le chant des marais que moi, j'ai entendu chanter par d'anciens déportés à Auschwitz qui, à chaque fois, me trouble au plus haut degré, donc je vous propose une version civile, entre guillemets, chantée par des civils, par le chant des marais.
Oui.
Au milieu d'un grand vide.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Mariette Guters, donc cinéaste, pour Le Diable en Garrigue, un court-métrage documentaire de 19 minutes qu'elle présente donc au cinéma Le Sémaphore le dimanche 1er février à 11h, précédé d'un documentaire de Thierry Boudry, qui est le producteur, L'œil écoute, Résistance de la mémoire. Résistance de la mémoire, là, c'est un juste.
C'est l'histoire d'un juste à Fourques qui
à côté d'Arles, oui.
Qui a sauvé des enfants juifs et qui raconte toute cette histoire. Oui.
Donc c'est très difficile, hein, vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, de produire un documentaire. Et ces 19 minutes, ça représente un travail considérable. Parce que vous avez parlé des difficultés de production, mais le problème financier aussi, c'est que les archives, vous avez fait un énorme travail d'archives.
Les archives,
ça coûte très cher.
Les archives coûtent très cher, voilà. Je le savais, mais je l'ai expérimenté. Et alors j'ai beaucoup été aidée au niveau des archives départementales du Gard par Julio Dordio qui est membre du collectif Histoire et Mémoire, qui m'a beaucoup guidée dans ce travail.
Donc vous avez tout regardé, vous avez fait un choix pour avoir les droits.
Oui, parce que sur le camp Saint-Nicolas, il n'y avait pas grand-chose, mais bon, j'ai trouvé d'autres choses aussi, des articles de journaux locaux dont j'avais besoin. Ensuite, c'est tout le reste, c'est les films d'archives, parce qu'on a des scènes historiques, de signature de l'armistice, des choses comme ça. Ouais. Et c'est là que ça coûte cher. Et aussi les reproductions des tableaux d'artistes, puisque au camp des Milles, il y a eu des créations d'artistes importantes. Et même au camp Saint-Nicolas, d'ailleurs. Et donc, ça, c'était excessivement difficile.
Et vous
j'ai
avez...
été... En revanche, j'ai... Quand j'ai écrit le scénario, j'ai obtenu l'aide à l'écriture de la région Occitanie, donc qui a donné un petit coup de pouce et qui a aidé en fait pas mal pour les repérages. Et puis ensuite, avec le producteur Thierry Bourdi de L'œil écoute, on a eu une subvention du Fonds citoyen franco-allemand sur notre projet. Donc pour ça, on avait fait une avant-première à Sommières.
Tout ça, c'est un énorme travail administratif.
Et le département aussi qui nous aide. Donc
il y a la notion de temps, de durée, de travail, et puis la notion financière. Vous ne devez pas dépasser un certain budget. Je peux vous demander à combien revient un film comme celui-là ?
Vous ne demandez pas ça, parce que moi, les chiffres, je ne sais plus.
Mais de toute façon, heureusement qu'il y a eu des aides. Et ces 19 minutes, elles vous ont coûté très cher en temps, en investissement.
Ça fait plus de 3 ans que je suis sur l'histoire de ce film. Et mon film précédent, c'était 5 ans. Vous savez, c'est toujours très très long.
Donc il est important de venir voir ce film que vous allez présenter donc le dimanche 1er février à 11h. Et... qu'est-ce qu'il est advenu, ou peut-être qu'il ne faut pas anticiper ce que vous allez dire lors de la présentation, qu'est-il advenu de Léon Schwanger ?
Alors, je ne veux pas non plus tout dévoiler, mais il a quand même été aidé, parce que tout le monde n'était pas indifférent, on va dire. Alors, à cette époque-là, il faut penser qu'on est tout début, parce que c'est juste après la signature de l'armistice, et il y avait un article 19... dans cet armistice où le gouvernement français s'engageait à livrer aux nazis tous les ressortissants allemands qui seraient demandés. Donc c'était l'énorme menace. Donc l'idée, c'était il fallait s'évader. Et puis il fallait aussi trouver des papiers pour partir. Et donc je ne vais pas dévoiler tout ça parce que c'est une évasion assez rocambolesque, mais bon.
Il y a beaucoup d'anecdotes. Vous avez dit le livre est vivant. Vous avez voulu faire un film vivant sur dynamique.
Voilà.
Et en alternant les archives.
Et comme j'ai parlé d'un lieu un peu inconnu, dont je voulais honorer la mémoire, j'ai parlé aussi d'un personnage dans le film. Je parle d'un personnage qui est appelé... énigmatiquement, Madame L, qui donc a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
En fait, on sait qui elle est.
Moi, je l'ai su parce que dans la version allemande du livre que je me suis procuré, Fuchsfanger donne les codes.
Ah, d'accord.
Mais après coup, parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là soient inquiétés.
Soient inquiétés, puisque ça a été écrit en 1942. Alors, j'ai avec moi le livre de poche, hein, et on voit que vous l'avez travaillé. Hein. Moi, j'adore voir un travail de cinéaste qui la note, qui met du fluo. Comment vous avez fait pour choisir les extraits à lire pendant le texte, pendant le film, pardon?
Je suis partie sur plusieurs thématiques, en fait. Vie du camp, par exemple. J'avais vie du camp, j'avais réflexion sur la France de Vichy. J'avais plusieurs thèmes. J'ai isolé des anecdotes. Là, dans le film, il y en a une ou deux, mais il y en avait beaucoup plus. Oui.
Parce que la table des matières du livre, c'est très, très simple, enfin très chronologique. Les briques des mille, la première nuit, les bateaux de Bayonne, deuxième nuit, les tentes de Nîmes, la troisième nuit. Oui. Donc c'est très, très chronologique.
Oui. Et les tentes de Nîmes, c'est juste une partie du récit.
Ouais. Donc, vois que la version française est préfacée par Alexandre Adler, et donc c'est toute une réflexion justement sur...
Oui, et d'ailleurs, j'ai surligné quelque chose de ce que disait... ce qui est marqué dans cette préface, et c'était intéressant aussi de montrer que ce qu'il disait là, Adler, c'est « Ce ne sont pas les Français dans leur ensemble qui suscitent la rage impuissante, la colère de l'homme de gauche, l'antifasciste. Ce qui choque Feuchtwanger, c'est la collusion sur le plan idéologique entre le gouvernement français et les nazis. » Et le je m'en foutisme, comme il l'appelle, hein. L'indolence et le laisser-aller des autorités et des administrations.
Alors, est-ce que ce livre-là que vous avez découvert il y a 3-4 ans, d'avoir visité ce lieu, est-ce que c'est aussi une sorte d'avertissement dans le contexte actuel? Est-ce que le contexte actuel vous a soutenu? Enfin, il faut absolument agir.
Bien sûr, bien sûr. Et moi, je répète toujours ce leitmotiv que j'ai vu partout écrit au mémorial du camp des Mille, c'est « L'histoire alerte le présent hein. ». Donc pour moi, c'est un travail de mémoire, mais qui doit être utile. Hein.
Oui.
Parce que d'abord, c'est un passé qui a été trop longtemps occulté. Hein.
Là, j'ai lu une dernière statistique qui m'a absolument sidérée, que 46% des jeunes de moins de 25 ans ne connaissent absolument pas l'histoire de la France sous Vichy.
Voilà, et dans les livres d'histoire, ça a été...
C'est 3-4 lignes, là, maintenant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, la résonance, évidemment, avec aujourd'hui, hein, parce que moi, on me pose la question, on n'a jamais essayé, l'extrême droite, on ne l'a jamais essayé, je dis si, on l'a essayé, et on a vu ce que ça a donné.
Ouais.
Et voilà. Donc,
et puis moi, je cite le texte de Badinter, ce n'est pas exactement ces phrases, le fascisme n'apparaît pas brusquement en quelques semaines.
Hein. Oui, oui.
Il rampe, il... Donc c'est vrai que le contexte actuel est tout de même très très préoccupant.
Et c'est pour ça qu'avec avec la montée des extrêmes partout, de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'avec ce film, on a prévu de circuler dans les collèges, les lycées, de témoigner.
Donc c'est tout un engagement avant, hein, c'est-à-dire tout le travail de recherche, après de construction. Hein, et là, votre métier de monteuse, quelle est la différence entre monteuse et cinéaste?
Le film, il y a trois étapes. Hein. Il y a l'écriture, enfin en documentaire, parce que moi je fais vraiment le documentaire d'auteur, c'est-à-dire que ce n'est pas du reportage. Donc il y a une construction déjà comme un scénario documentaire. Et après, il y a des imprévus, bien sûr. Et donc, on écrit un projet parce qu'il faut quand même convaincre des gens aussi.
Et
donc,
oui,
avec une intention et aussi des notes de réalisation. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le tournage. Et la troisième étape, qui est vraiment fondamentale, c'est la construction du film. Et,
il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de...
Il y a des choix, souvent, des choix à faire.
Difficile.
Et de trouver des dispositifs différents.
Oui, ce que vous disiez, entre les images d'archives, dessins, entre... Pas de voix off.
On a travaillé longtemps sur comment on va équilibrer ce plan, ce... Et il y a tout un travail que Thierry a vraiment, on a vraiment travaillé ensemble. Oui.
Alors 19 minutes, ça peut sembler court, mais ça demande une dose de travail considérable. Et vous êtes satisfaite du résultat?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Au sémaphore, c'est moi qui vais être en charge de présenter, de répondre aux questions. Mais le but, c'est aussi d'être... Parce que c'est un film, il est court. Donc moi, j'ai prévu dans d'autres cas, ce qu'on m'en avait fait à Sommiade, qu'il soit accompagné par un historien. On a eu un historien du camp des Mille. Et puis une spécialiste de littérature de Feuchtwanger, qui est universitaire.
Okay.
Il y aura d'autres projections...
Dans d'autres lieux,
voilà, accompagné. Mais et là, puis, bon, c'était pas...
Et je pense qu'après, là, il y aura un débat, il y aura un petit temps de débat.
Bien sûr, on aura le temps, hein, parce que les films sont courts, donc on aura le temps. Donc il y aura toutes les questions possibles.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Mariette. Moi, j'ai découvert donc ce livre que je vais m'empresser d'acheter et de lire, parce que je trouve qu'il est... Je l'ai parcouru, bien évidemment. Et puis, tout ce dossier de presse que vous avez, qui est assez fascinant. Et comme on ne peut pas aller sur le terrain militaire... Merci à vous de nous faire découvrir, d'être un témoin. Merci à vous.
Merci à vous également de m'avoir reçu aujourd'hui.